Paul Féval, Les habits noirs, troisième partie, La forêt de Paris. Chapitre premier, traité des origines et le chemin des amoureux. Chaque chose, grande ou petite, garde le cachet de son origine. Le feu lui-même sourit dans le foyer heureux où flambe le bois qui coûte cher, le feu se renfrogne et brûle rouge dans la grille économique bourrée de coke, le feu languit sans lumière ni chaleur dans l'âtre où la tourbe des pauvres se consume lentement sous la cendre. Le bois vient des forêts splendides, le coke fut extrait d'une cave, la tourbe sort d'un cloaque. Londres fut bâtie dans un triste marécage. Paris s'élança au sein merveilleux d'une forêt. Londres brûle noire, Paris flambe et pétille. On ne bâtira plus aucun Paris dans l'ancien monde. Paris est le dernier mot de nos civilisations. Mais des prophètes de malheur ont entrevu des présages sombres, et je ne sais quel fantôme de forêt, revenant à pas de loup, après des siècles, pour reconquérir son antique domaine. Des chaînes crevant la voûte de Notre-Dame, des chaînes faisant, aux ruines du Louvre, une autre colonnade. Alors, quelques satrapes des barbaries parvenues, envoyés pour tâter le pouls chétif de cette vieille Europe à l'agonie, s'étonnera de trouver ici les animaux sauvages qui manqueront dans sa patrie. Le squelette de l'éléphant Kiouni, mort au jardin des plantes pendant que l'historiographe de l'expédition comptera les piliers tronqués de la bourse. Deux livres naîtront de là, dont l'un prouvera que la race disparue des éléphants était originaire des contrées mouffetards, et l'autre qu'au temps lointain où florissait la France, il existait déjà une religion. On bâtira Paris ailleurs, et ce sera le même suprême caprice de l'histoire. Tout exigu qu'il est de nos jours, Paris peut passer pour une jolie ville. Il le sait. Le Parisien est fier de lui-même, comme l'Esquimau et le Samoyed s'enorgueillissent de leur rang dans l'échelle des peuples. Il soudoie un grand nombre d'écrivains chargés sans cesse de lui dire qu'il a seul de l'esprit, de l'honneur et de la beauté. Il est reconnu qu'à Paris, tout homme tenant une plume peut gagner aisément sa vie en écrivant chaque matin cette phrase « Les Parisiennes sont les plus élégantes femmes du globe ». À Londres, il est vrai, on dit cela des Anglaises, à Berlin des Prussiennes, à La Haye des Hollandaises. Je connais assez la littérature courante du céleste empire pour affirmer qu'à Pékin, les mandarines ne lisent point les livres qui omettent de célébrer l'infirmité de leurs pieds. Paris, à cet égard, est partout. Mais partout n'est pas Paris. Alors tous les pays de l'univers viennent chercher Paris. Les autres capitales se vantent, Paris ne fait que se rendre justice. Il est Paris, il s'amuse de tout et tout s'amuse chez lui. Non, ce ne fut point chez nous, dans la futaie Saint-Honoré ou dans les taillis d'Antin, que se passèrent les funestes tragédies qu'on chante ou qu'on déclame. La Vestale parisienne eut une moins ennuyeuse histoire, et au coin de ces bocages où devait s'élever le théâtre du Vaudeville, en face de la maison des agents de change, tout, jusqu'aux sacrifices humains, avait certes une bonne odeur de gaieté. On exécute encore les gens dans l'un ou l'autre de ces sanctuaires, pleure-t-on pour cela. La plume de César sourit en traçant le nom de Lutèce. Les biches ne sont qu'à Paris, on les y vient chercher du Midi et du Nord, de l'Orient et de l'Occident. Elles se reproduisent là, sans culture et sans soin, providentiellement, comme les truffes du Périgord, comme les marrons à Lyon, comme la sardine sur nos côtes de l'Ouest. C'est la richesse de la contrée. Les sociétés d'acclimatation ont essayé de les transplanter en divers pays. Impossible. Quant aux serres, Molière est mort et la langue n'en peut plus. Convenez cependant que ces rudes plaisanteries, si chères à nos aïeux, criaient à plein gosier leur origine sylvestre. Ils ont beau faire nos édiles, les boulevards, il est vrai, vont et viennent, faisant de notre forêt le plus merveilleux pays de chasse qui soit au monde. chasseurs et gibiers s'y courent mutuellement sous la loyale lumière du gaz. Mais il y a encore, il y aura toujours des halliers, des ravins et des cavernes pour les pauvres gens qui ont des raisons légitimes de n'aimer point le grand jour. Il faut, dit le proverbe, que tout le monde vive. Il y avait en 1842 une ruelle commençant au faubourg Saint-Martin et courant tortueusement à travers une sorte de banlieue vers l'angle de la rue de Ménilmontant, plus d'un kilomètre. La partie du boulevard qui s'ouvre maintenant pour laisser voir la blanche rotonde du cirque s'appelait alors la Galiote. C'était une succursale des barrières. À partir de ce point jusqu'à la place de la Bastille, le boulevard, bordé d'un seul côté par des échoppes, alignait de l'autre une étroite promenade humide dominant la rue Amelot. Les messageries aquatiques et terrestres qui avaient baptisé la Galiote n'existaient plus, mais par souvenir, l'entreprise des bateaux-postes de Lourcq avait là un petit bureau à la devanture duquel on voyait le portrait de l'aigle de Meaux numéro 2, traîné par un prodigieux attelage. Les maisons voisines étaient des guinguettes, et sur le terre-plein, quelques baraques de saltimbanques s'élevaient. À la place même où est l'entrée du cirque, et derrière les bâtiments de la Galiote, était l'embouchure étranglée de cette ruelle qui rejoignait, après d'innombrables détours, la rue du Faubourg Saint-Martin. Cette ruelle avait mauvaise réputation. On la nommait dans le quartier « le chemin des amoureux ». L'entrée, sombre et masquée par une porte de chantier sans battant, avait la nuit une lanterne jaunâtre où se lisait l'enseigne du café estaminet de l'épicier, avec cette mention, tracée en caractère provoquant, « On joue la poule ». Au-dessus de la lanterne, on pouvait admirer, le jour, un tableau qui, ajoutant le rébus au calembour, montrait un gigantesque épi scié par une faucille colossale et rectifiait ainsi l'orthographe de la chose au café estaminet de l'épicier. Sur une longueur de 50 à 60 pas, la ruelle, fangeuse et bordée de masures impossibles, s'enfonçait parallèlement à la rue Ménilmontant. Elle rencontrait là le café estaminet, monument d'une entière laideur, mais assez considérable et qui avait dû être usine autrefois. La ruelle le contournait et, lui servant deux fois d'avenue, au midi et à l'ouest, poursuivait sa course perpendiculaire à elle-même vers la rue de Crussol. Elle coupait la rue de Crussol, puis le passage des deux boules, et s'engageait entre les chantiers occupant l'emplacement de l'ancien prieuré de Malte. Un instant, elle s'appelait ici la rue du Haut-Moulin, puis, côtoyant le premier cirque, bâti par les frères Franconi, faubourg du Temple numéro 16, elle franchissait cette grande voie pour entrer dans un passage borgne non loin du restaurant Passoir. Dès lors, l'aspect changeait. Le chemin des amoureux méritait presque son nom. Il longeait d'un côté des maisons tristes, comme les villas en forme de tombe qui égaient certains environs de Paris, et toute bâtie en contre-haut. De l'autre, une haie, une véritable haie de sureaux malades, soutenue par des piquets vermoulus. La haie défendait des terrains vagues où il y avait des chèvres, des chardons ou des choux. Les amoureux y venaient, ils avaient la tournure qu'il fallait pour animer et compléter le paysage. Au mois de janvier 1833, un amoureux, le bijoutier Lassus, jeune homme de 22 ans, maladif et contrefait, fut assassiné à coups de barres de fer et enterré de l'autre côté de la haie, non loin de l'entrepôt actuel de la douane. Sa fiancée demeurait rue Fontaine-au-Roi, et il regagnait son domicile, situé passage de l'Industrie, quand le meurtre eut lieu, à 4 heures du soir. Le chemin des amoureux, bizarrement calibré, avait en son parcours de très variables largeurs. La plupart du temps, deux hommes y marchaient difficilement de front, et plusieurs de ces défilés eussent pu être défendus mieux que les Thermopyles. Il était cependant carrossable en deux endroits, aux environs de la rue de Lancry et dans la partie qui, sous le nom de la rue du Haut-Moulin, remontait du faubourg du Temple au chantier de Malte. Dans la nuit du mardi au mercredi, c'est-à-dire un peu plus de 48 heures après cette soirée du dimanche, dont nous avons raconté l'histoire, un coupé fermé stationnait à l'entrée de la ruelle, à 25 pas environ du faubourg vers lequel la tête du cheval restait tournée. Il pouvait être 4 heures du matin. Le cocher, enveloppé dans son manteau, dormait. Ce coupé mérite l'attention, non pas seulement à cause du lieu et de l'heure. Il était arrivé depuis 20 minutes. Une femme en était descendue, ordonnant au cocher de tourner son cheval et de l'attendre. Elle semblait jeune sous son voile. Sa mise était d'une élégante simplicité. Elle avait pris la ruelle à pied et avait disparu au tournant voisin. Quelques secondes auparavant, à l'instant où le coupé sortait du faubourg pour entrer dans la ruelle, un homme, qui n'était pas un valet de pied, avait sauté lestement du siège de derrière sur le pavé. Cet homme, depuis lors, caché à l'angle de la ruelle, semblait guetter le cocher. Celui-ci, s'étant arrangé pour sommeiller, car le voisinage d'une grande voie de communication éloignait de lui toute crainte, l'autre s'approcha du coupé avec précaution, ouvrit sans bruit la portière et fit usage d'une extrême adresse pour se glisser à l'intérieur sans produire aucun choc. Une fois maître de la place, il referma doucement la portière. Tout redevint silencieux et immobile. Vers ce même instant, à l'extrémité opposée de la ruelle, une lueur rougeâtre brillait, malgré l'heure nocturne, à la fenêtre d'une pauvre forge voisine de ce fameux estaminet de l'épi scié, qui ne dormait pas non plus, car ses contrevents clos laissaient sourdre des murmures confus, dominés par le bruit sec et direct de deux billes qui se choquent sur le tapis où l'on joue la poule. La porte de la forge s'ouvrit, un couple sortit, qui s'éclaira un instant aux lueurs venant de la croisée. Nous eussions reconnu du premier coup la pâle beauté d'Edmé Leber et cette figure de bronze, M. Bruno, le marchand d'habits de la rue Notre-Dame de Nazareth. M. Bruno dit « Ma fille, nous allons nous séparer ici ». Il lui remit en même temps un objet assez volumineux qui sonnait le métal sous l'étoffe qui l'enveloppait. Avant la fin de la journée, reprit-il, ceci vous sera acheté si vous consentez à le vendre. Si vous refusez de le vendre, il vous sera volé. Et qu'ai-je à faire ? Demanda la jeune fille. Rien, attendre. Le piège est tendu désormais, le loup s'y prendra. Il n'y a aucun danger pour ma pauvre bonne mère ? Demanda encore Edmé. Aucun, répondit Monsieur Bruno. Il l'attira contre lui, achevant avec une grave émotion. Vous serez la femme de Michel, et la mémoire de votre père sera vengée. » Il la quitta, dirigeant son pas calme et solide vers le faubourg du temple. Edmé le suivit un instant des yeux, puis elle longea l'estaminet pour gagner la galiote et le boulevard. Le monde de pensées qui était dans son cerveau lui sauvait la frayeur. Cependant, la jeune femme du coupé et M. Bruno devaient se rencontrer. C'était un rendez-vous. À la hauteur du passage des deux boules, ils se trouvèrent face à face. La jeune femme souleva son voile et M. Bruno lui mit un baiser sur le front. Le réverbère éclaira le visage charmant mais pâle de la comtesse Corona.